Leçon parentale tirée des pharisiens. Plutôt cette semaine, j'ai demandé à ChatGPT combien de livres ont été écrits sur le thème de la parentalité. La réponse a été qu'il y en avait probablement plus de 100 000. Cela fait beaucoup de livres sur la parentalité. Sans parler du nombre d'articles, de podcasts, de vidéos YouTube et de vlogs qui existent, avec des conseils sur la nutrition, le lien affectif, l'éducation, les routines, le temps d'écran, le développement de l'enfant, et bien plus encore. Pour les nouveaux parents aujourd'hui, par où commencer avec toutes ces informations? Comment Marie et Joseph faisaient-ils sans toutes ces données? Certes, leur enfant était parfait. Mais qu'en était-il des chrétiens il y a 500 ans ou 1000 ans? Comment faisaient-ils sans toutes ces ressources et toutes ces informations? Était-il même possible d'être un bon parent chrétien à cette époque? Je dirais que oui. Il y avait de bons parents chrétiens il y a 500 ans et il y a 1000 ans. Et il est possible d'être un bon parent chrétien aujourd'hui, sans lire tous les livres ou écouter chaque podcast. Alors, comment fait-on? Eh bien, c'est ce que je voudrais que nous examinions ce matin. Donc, si vous avez une Bible, veuillez l'ouvrir avec moi dans Luc, chapitre 6. Ce matin, nous allons consacrer quelques nouveau-nés au Seigneur. Et c'est toujours une bonne occasion de voir ce que la Bible dit sur la parentalité. Maintenant, je voudrais mentionner quelques points au début. Peut-être que vous êtes assis là et que vous vous dites, « Eh bien, je n'ai pas d'enfant, donc cela ne me concerne pas. » Eh bien, vous pourriez être parent à l'avenir. Mais ce n'est pas tout. Les versets que nous allons examiner aujourd'hui s'appliquent aussi au fait d'être un bon mari ou une bonne épouse, et tout simplement à être une personne pieuse en général. Donc je pense qu'il y a quelque chose ici pour chacun aujourd'hui. Et l'autre chose que je souhaite toujours rappeler lorsque j'enseigne sur la parentalité, c'est que j'ai des enfants, mais ils sont encore assez jeunes. Donc, je ne suis pas un expert en la matière. J'apprends encore au fur et à mesure. Maintenant, ce matin, je voudrais que nous examinions une source inattendue en ce qui concerne le sujet de la parentalité. Je ne pense pas avoir déjà entendu un sermon ou un enseignement concernant ces hommes en rapport avec la parentalité, mais j'ai été inspiré par une conversation que j'ai eue avec Gabi il y a quelques semaines. Ce matin, je voudrais que nous tirions quelques leçons de parentalité des pharisiens. Oui, ces hommes-là, ils étaient des chefs religieux en Israël à l'époque de Jésus et des débuts de l'Église. Ils occupaient des rôles de dirigeants dans les synagogues juives et avaient donc une position d'autorité sur la nation d'Israël. Ils étaient leurs guides spirituels. Alors, qu'est-ce que nous pouvons apprendre d'eux en tant que parents? Que pouvons-nous apprendre sur la manière de guider et diriger ceux qui sont sous notre responsabilité? Qu'est-ce que les pharisiens ont bien fait? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas bien fait? Regardons Luc 6:1. Un jour de sabbat, Jésus traversait des champs de blé. Ses disciples arrachaient des épis, les frottaient dans leurs mains et en mangeaient les grains. Alors Jésus et ses disciples traversaient des champs le jour du sabbat. Si vous ne savez pas ce qu'est le jour du sabbat, le sabbat était le septième jour de la semaine. Et dans les 10 commandements que Dieu a donnés à Moïse, l'un des commandements que Dieu a donné à Israël était que le sabbat devait être un jour de repos. Ce devait être un jour sans travail. Bien sûr, Nous retrouvons ce thème lors de la création, quand Dieu s'est reposé le septième jour après tout ce qu'il avait créé. Le sabbat était un jour mis à part pour se souvenir de ce que Dieu avait fait pour Israël. Cela avait lieu le samedi, et c'est encore le cas aujourd'hui pour les Juifs. Le jour du sabbat devait être saint et mis à part. C'était un jour qui devait être consacré au Seigneur. Donc, dire simplement que le sabbat signifiait qu'on ne pouvait pas travailler, ce serait en réduire le sens. Ne pas travailler faisait certainement partie du sabbat, mais il y avait aussi une signification plus large, avec l'idée de réserver un jour de la semaine pour se souvenir de Dieu et l'adorer. C'est donc ce jour-là que nous retrouvons Jésus et ses disciples marchant à travers les champs. C'était le jour du sabbat. Apparemment, ils avaient faim. Alors ils prirent des épis de blé et commencèrent à les frotter dans leurs mains. Mais quelques pharisiens dirent « Pourquoi faites-vous ce qu'il n'est pas permis de faire le jour du sabbat ?» Les pharisiens observaient Jésus et ses disciples. Ils posent une question à Jésus, mais ce n'est pas une question innocente. Ils ne lui demandent pas « Que faites-vous ?» Cela aurait été acceptable, mais ils lui posent une question empreinte de jugement. Ils demandent « Pourquoi enfreignez-vous la loi le jour du sabbat ?» Or, il n'était pas interdit de prendre quelques épis dans le champ de quelqu'un d'autre. Cela était permis par la loi, et l'on peut supposer que les disciples de Jésus avaient simplement faim à ce moment-là. Donc, ce n'était pas là le problème. Le problème que les pharisiens avaient avec eux, c'était qu'ils frottaient les grains dans leurs mains. Pour les pharisiens, cela signifiait qu'ils travaillaient, et il n'était pas permis de travailler le jour du sabbat. Les pharisiens disaient que Jésus et ses disciples violaient la loi. Jésus leur répondit « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui ? Comment il entra dans la maison de Dieu ? Prit et mangea les pains de proposition qu'il n'est permis qu'aux prêtres de manger. » et en donna aussi à ceux qui étaient avec lui. Jésus répond en racontant une histoire de l'Ancien Testament. Dans le premier livre de Samuel, au chapitre 21, David et ses hommes avaient faim. Alors ils sont allés au temple pour trouver de quoi manger. À cette époque, il existait deux sortes de pain, le pain ordinaire et le pain sacré. N'importe qui pouvait manger le pain ordinaire, mais seuls les prêtres pouvaient manger le pain sacré. Finalement, David et ses hommes mangèrent le pain sacré, même s'ils n'étaient pas prêtres. Lorsque vous lisez ce passage des Écritures, il est clair que David a enfreint la loi. Mais l'Écriture ne condamne pas David. Pourquoi Jésus raconte-t-il cette histoire? Parce que cette histoire ne mentionne même pas le sabbat. Jésus veut dire que certains aspects de la loi ne doivent pas être interprétés de manière si littérale qu'il n'y ait plus de compassion pour les besoins humains. Jésus dit que le sabbat a été créé pour être un acte saint d'adoration pour le peuple. Et non un fardeau tel que les pharisiens en faisaient un fardeau. En d'autres termes, l'application du sabbat ne devrait pas prendre le pas sur le cœur même du sabbat. Le cœur de l'observance du sabbat était bon. Mais les pharisiens l'avaient perverti et avaient perdu l'essence du commandement. Ils étaient plus préoccupés par le fait de prendre les gens en faute que par le véritable repos du sabbat. Alors, Jésus leur raconte l'histoire du roi David et du pain, ce qui met les pharisiens dans un dilemme. Il connaissait évidemment cette histoire. Donc, si Jésus et ses disciples avaient eu tort de préparer un repas le jour du sabbat, les pharisiens auraient aussi dû dire que David avait eu tort de manger le pain sacré. Car dans les deux cas, cela irait à l'encontre de la loi. Mais ils ne voulaient pas dire que le roi David avait eu tort, car le roi David était l'un des plus grands héros de l'histoire juive. Les pharisiens essayaient de piéger Jésus avec la loi, mais finalement, ce sont eux qui sont tombés dans un piège ce jour-là. 5. Et il leur dit, « Le Fils de l'homme est maître du sabbat. » Au verset 5, Jésus dit que le Fils de l'homme, un titre que Jésus utilise souvent pour lui-même, a autorité sur la compréhension et l'administration du sabbat. Dieu a donné le jour du sabbat à son peuple afin qu'il puisse se reposer et être rafraîchi. C'était pour le bien du peuple. C'était l'idée de Dieu. Par conséquent, Jésus, Dieu fait homme, peut appliquer cette loi comme il l'entend. Il l'a créée, donc il en a l'autorité. Le Fils de l'homme est le Seigneur du sabbat. Jésus leur dit de ne pas oublier qui est aux commandes. Les pharisiens pensaient qu'ils étaient aux commandes. Ils pensaient qu'ils faisaient ce qu'ils devaient faire en surprenant les gens à travailler le jour du sabbat. Je suis sûr qu'ils pensaient bien faire auprès de Dieu en essayant d'être la police du sabbat. Mais Jésus leur a rappelé qu'il est le Seigneur du sabbat. Permettez-moi de dire quelque chose de positif au sujet des pharisiens pendant un instant, car il est facile de les critiquer. Alors laissez-moi mentionner quelque chose qu'ils faisaient bien. Ils connaissaient la parole de Dieu. Ils connaissaient les commandements. Ils avaient mémorisé une grande partie de l'Ancien Testament. C'était une bonne chose. Comme nous l'avons vu dans le psaume 119. Connaître la parole de Dieu vous donne des racines profondes. Connaître la parole de Dieu vous aide à traverser les saisons de sécheresse. Les pharisiens étaient des experts de la loi. Parents, suivez cet exemple. Deutéronome 6, versets 5 à 7. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces paroles que je te prescris aujourd'hui seront sur ton cœur. Tu les enseigneras avec soin à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras assis dans ta maison, quand tu marcheras en chemin, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Connaissez la parole de Dieu. Enseignez-la à vos enfants. Partagez l'évangile avec eux. Parlez-leur de Jésus. Si vous voulez que vos enfants connaissent la parole de Dieu, alors vous devez la connaître vous aussi, et la leur enseigner. Les pharisiens connaissaient la parole de Dieu. Ils étaient des experts de la loi. C'était une bonne chose. Le problème, c'est qu'ils n'étaient pas aussi experts en grâce. Ils lisaient la loi d'une manière tellement littérale qu'ils en oubliaient d'être compatissants. Cela m'amène à mon premier point. Premièrement, soyez experts de la loi et de la grâce. Parents, il est bon d'avoir des règles. Les enfants ont besoin de règles. Les enfants ont besoin de limites. Les enfants ont besoin de discipline. Ce sont de bonnes choses, mais en plus de ces règles, assurez-vous d'avoir aussi de la grâce envers vos enfants. Ce jour-là, les pharisiens n'avaient aucune compassion pour Jésus et les disciples affamés. Dans l'histoire suivante, ils n'avaient aucune compassion pour l'homme à la main paralysée. Et comme nous le savons, à la fin des évangiles, ils n'avaient aucune grâce pour Jésus, puisqu'ils l'ont finalement crucifié sur la croix. Laissez-moi vous donner un exemple de la façon dont Dieu m'a enseigné la grâce en tant que parent. Voici une photo de mon fils Connor allant à son premier jour de maternelle. Il a environ 2 ans et demi sur la photo, donc c'était il y a environ 7 ans. Il était enthousiaste à l'idée d'aller à la maternelle pour son premier jour. Il n'y a eu aucun problème lorsque nous l'avons déposé à l'école ce jour-là. Il n'a pas pleuré. Ensuite, nous sommes allés le chercher et nous l'avons emmené manger un cookie pour fêter ça. Et pendant les quelques mois suivants, tout allait bien. Mais un jour, en avril, je l'ai emmené à la maternelle. Nous étions dans la voiture et soudain il s'est mis à pleurer et à paniquer. Je ne me souviens plus quel était le problème. Je pense qu'il avait oublié son jouet. Mais je devais aller travailler. Il n'y avait pas le temps de faire demi-tour. Mais il était en train de perdre le contrôle. Il pleurait et était vraiment bouleversé. Nous nous sommes garés devant la maternelle, mais il ne voulait pas sortir de la voiture. Je commençais à m'impatienter et à stresser. Je disais probablement « Allez, mon garçon, sors de la voiture ». Mais il pleurait et paniquait. J'aurais pu le sortir de la voiture de force en disant « Je t'ai dit d'aller à l'école », puis le porter à l'intérieur et le laisser là. J'aurais pu faire cela. Et peut-être qu'un autre jour je l'aurais fait. Ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose à faire. Mais il y avait quelque chose en moi, je crois que c'était le Saint-Esprit, qui me disait « Ce n'est pas un moment pour la loi. C'est un moment pour la grâce. » Et au lieu de me mettre en colère contre mon fils parce qu'il était bouleversé, Dieu m'a donné de la compassion à ce moment-là. J'ai pu le regarder avec des yeux différents. Et j'ai dit « Eh bien, c'est embêtant qu'on ait oublié le jouet, mais si on allait à Zabka, prendre une gourmandise avant l'école. » Il a accepté, alors nous sommes sortis. Nous sommes allés à Zabka et avons acheté une gourmandise. Et il s'est calmé. J'ai pris une photo de ce moment. C'est l'une de mes photos préférées de mes enfants. Parce qu'elle me rappelle que les règles sont bonnes, la discipline est bonne, la loi est bonne, mais que la grâce, la miséricorde et la compassion sont bonnes aussi. Maintenant, si j'avais fait cela tous les jours lorsque je l'amenais à la maternelle, si je l'avais emmené à Zabka chaque fois qu'il pleurait, cela aurait été mauvais. Cela aurait créé une mauvaise habitude. Mais ce jour-là, ce seul jour, il avait du mal à aller à l'école. Il aurait été facile pour moi d'imposer la loi et de dire « c'est comme ça ». Et puis c'est tout. Mais il n'avait pas besoin de la loi de ma part à ce moment-là. Il avait besoin de grâce. Il avait besoin de compassion. Jésus et ses disciples n'essayaient pas d'aller à l'encontre de la loi ce jour-là. Ce n'était pas leur motivation. Ce n'était pas leur intention. Ils avaient simplement faim et ont pris du pain. Plus tard, Jésus a demandé aux pharisiens « Est-il permis, le jour du sabbat, de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une vie ou de tuer ?» La réponse est évidente, mais les pharisiens sont restés silencieux, parce qu'ils ne savaient pas comment suivre la loi et faire preuve de grâce en même temps. Il y a souvent quelques thèmes qui ressortent. Lorsque vous lisez les récits ou parlez à des personnes qui ont quitté la foi une fois adultes et parties de chez leurs parents. Un thème que l'on entend souvent de la part de ces personnes, c'est que leur foyer était ultra strict sur les règles, mais il n'y avait pas beaucoup de grâce. Maintenant, je suis sûr que les intentions de leurs parents étaient bonnes. Ils essayaient d'élever les enfants dans la voie du Seigneur. Je suis certain qu'ils ont fait de leur mieux. la plupart des parents essaient simplement de faire de leur mieux. Alors qu'est-ce qui a mal tourné? Je veux dire, ils essayaient de former leurs enfants selon la voie du Seigneur. Alors que s'est-il passé? Chaque situation est différente. Donc, il est difficile de parler de façon générale à ce sujet. Mais nous savons qu'il est possible de contrôler le comportement d'un enfant quand il est jeune. Lorsqu'ils sont petits, il est possible de leur faire faire ce que vous voulez qu'ils fassent. Mais ce n'est pas parce que vous pouvez contrôler le comportement d'un enfant que vous pouvez contrôler son cœur. Ce n'est pas parce que l'extérieur correspond à ce que vous souhaitez que l'intérieur va bien. Les enfants obéissaient donc, mais au moment où ils étaient assez grands pour être indépendants, ils rejetaient l'éducation dans laquelle ils avaient grandi. En fin de compte, c'est Dieu qui accomplit une œuvre de salut dans la vie de nos enfants. C'est une œuvre surnaturelle du Saint-Esprit. En tant que parents, vous ne pouvez pas la fabriquer ou la provoquer, peu importe à quel point vous essayez. C'est une œuvre de Dieu. C'est Jésus qui apporte la moisson spirituelle. Cela dit, il y a des choses que nous pouvons faire, en tant que parents, pour aider à préparer le terrain, pour ainsi dire. C'est Dieu qui donne la croissance spirituelle. Mais nous pouvons planter des graines et arroser ces graines. Oui, nous devons avoir des règles, des limites et de la discipline. Mais nous devons aussi enseigner à nos enfants la miséricorde, la grâce et la compassion. Nous devons toucher leur cœur, pas seulement leur comportement. Matthieu 23 exprime bien cette tension lorsque Jésus dit aux pharisiens « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'aneth et du cumin, et que vous avez négligé ce qu'il y a de plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est cela qu'il fallait pratiquer, sans négliger le reste. » Jésus a des paroles dures pour les pharisiens. Il dit qu'ils obéissaient à la loi de Dieu sur certains points, comme la dîme, par exemple. Ils prenaient soin de donner un dixième de la menthe, de l'aneth et du cumin au Seigneur. C'était bien. Jésus dit oui, vous devez faire cela. Mais ils négligeaient des choses bien plus importantes, comme la justice, la miséricorde, et la fidélité. En effet, Jésus dit que ces choses étaient plus importantes que la dîme. Autrement dit, il mettait l'accent sur les détails secondaires, au lieu de mettre l'accent sur ce qui était essentiel, comme la justice, la miséricorde et la fidélité. Il ne prenait pas soin du peuple de Dieu, comme ils auraient dû le faire. Aaron, il est bon d'être expert dans la loi. Il est bon d'être expert de la Bible, de connaître la parole de Dieu, mais d'après l'exemple des pharisiens, nous voyons que cela ne suffit pas. Vous devez également être expert en grâce, en miséricorde et en compassion. Ne cherchez pas seulement à modifier le comportement, mais visez une transformation du cœur chez vos enfants. Voilà un thème que j'entends souvent venant de personnes qui se sont éloignées de la foi de leurs parents. Un autre thème que j'entends, c'est le décalage entre ce que leurs parents disaient et la façon dont ils vivaient leur vie. Il y avait une différence entre leurs parents le dimanche à l'église et lorsqu'ils rentraient à la maison le reste de la semaine. Voyons cela aussi chez les pharisiens. Dans les 7 malédictions contre les pharisiens dans Matthieu 23, Jésus les a traités plusieurs fois d'hypocrites. Regardez Matthieu 23, 1 à 4. 1. Alors Jésus dit à la foule et à ses disciples. 2. Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. 3. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent, et ne font pas. 4. Ils lient des fardeaux pesants et difficiles à porter, et les mettent sur les épaules des hommes, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Les pharisiens étaient dans une position d'autorité. Ils prêchaient la parole de Dieu, mais ils ne mettaient pas en pratique ce qu'ils prêchaient. Ils imposaient toutes ces charges et attentes à leurs gens, mais ils n'étaient pas prêts à les aider du tout. Je suis sûr que nous connaissons tous des parents qui placent trop d'attentes et de fardeaux sur leurs enfants. Mais Jésus avait tant de mépris pieux pour ces pharisiens, parce que leurs paroles et leur vie ne correspondaient pas. Jésus a dit qu'ils honoraient Dieu de leurs lèvres, mais que leur cœur était éloigné de lui. Ils ne faisaient pas ce qu'ils disaient. Cela m'amène à mon deuxième point. 2. Pratiquez ce que vous prêchez. Il y a quelques années, j'ai lu un livre dans lequel l'auteur parlait de son enfance dans une famille chrétienne. Et il écrivait ceci. Le pire type de foyer chrétien dans lequel grandir est celui où il y a de grandes prétentions spirituelles, mais de faibles performances spirituelles. Le meilleur type de foyer chrétien dans lequel grandir est celui où il y a peu de prétentions spirituelles, mais une performance spirituelle très élevée. Parce que les meilleures choses s'attrapent, elles ne s'enseignent pas. Ce que l'auteur voulait dire, c'est que ses parents n'étaient pas du genre à se considérer comme de grandes personnes spirituelles, tout en vivant une vie qui contredisait cela. Au contraire, ses parents ne se voyaient pas comme de grandes personnes spirituelles, mais la manière dont ils vivaient montrait qu'ils l'étaient vraiment. Et cela a profondément influencé leur fils de manière positive. Parce qu'il en est ainsi avec les enfants. Il voit tout. Il nous voit dans nos meilleurs jours comme dans nos pires. Nous n'avons pas besoin de chercher à être un exemple pour nos enfants, car nous sommes toujours un exemple pour eux. La question est de savoir quel type d'exemple nous donnons. Nos enfants voient la véritable version de nous-mêmes. Ils voient le bon et le mauvais. Et même si cela peut paraître effrayant, c'est aussi une formidable opportunité. Parce qu'en réalité, la plupart des choses s'attrapent, elles ne s'enseignent pas. Nous avons tendance à surestimer l'impact de nos paroles, mais à sous-estimer la puissance de notre exemple. Je ne me souviens pas que mon père se soit assis avec moi pour m'expliquer l'importance de lire ma Bible. Je suis sûr qu'il l'a fait, mais je ne m'en souviens pas. Par contre, ce dont je me souviens très bien, c'est d'être passé devant la chambre de mes parents et de l'avoir vu lire sa Bible et prier. Je ne me souviens pas de ses paroles, mais je me souviens très clairement de son exemple, et cela m'a profondément marqué. Comme je l'ai dit, nous avons tendance à surestimer l'impact de nos paroles, mais à sous-estimer la puissance de notre exemple. La plupart des choses s'attrapent, elles ne s'enseignent pas. Évitez l'exemple des pharisiens. Ne dites pas une chose pour ensuite vivre d'une autre manière. C'est le pire exemple que vos enfants puissent voir. Que votre lumière brille devant les autres, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et rendent gloire à votre Père qui est dans les cieux. Cela inclut nos enfants. Normalement, lorsque nous pensons aux autres, il est facile de penser aux non-croyants. Laissez notre lumière briller afin qu'ils puissent connaître Jésus. Mais pourquoi cela ne pourrait-il pas aussi s'appliquer à nos foyers? Nous devrions laisser notre lumière briller dans nos foyers pour que les enfants voient nos vies et rendent gloire à Dieu. Bien sûr, cela ne signifie pas que nous allons faire cela parfaitement. Il nous arrivera d'échouer. Nous allons faire des erreurs. Parfois, nous allons nous laisser emporter par nos émotions. Le but d'être un exemple pieux pour nos enfants n'est pas qu'ils pensent que nous sommes parfaits. D'abord, c'est de toute façon impossible. Mais ensuite, je pense qu'un meilleur exemple pour nos enfants est qu'ils voient que nous dépendons du Christ, que nous dépendons du Seigneur. Ainsi, quand les temps sont difficiles, ils peuvent nous voir dépendre de Dieu. Ils peuvent nous voir prier. Le but n'est pas d'être un parent parfait. Le but est d'être dépendant de Dieu. C'est ce que j'espère qu'ils retiendront. Parce que nous allons faire des erreurs. Mais nous devons avoir confiance qu'ils voient le Christ en nous, nous faisant grandir, œuvrant dans notre cœur. Et croire que cela se transmettra à vos enfants. Je voudrais que vous réfléchissiez à une chose de plus concernant les pharisiens. Pour moi, c'est la chose la plus effrayante chez les pharisiens. Il est facile de lire ce qui concerne les pharisiens et de se dire « Qu'est-ce qui ne va pas chez ces types? Ce sont des imbéciles. Ils ne comprennent rien. » C'est une façon simple de les voir. Mais voici ce qui me fait le plus peur chez les pharisiens. Ils pensaient qu'ils faisaient ce qui était juste. Ils pensaient aider les gens à suivre Dieu. Ce n'est pas comme si les pharisiens se réunissaient et se disaient « Comment pouvons-nous tout gâcher ?» Ce n'était pas leur façon de penser. Ils croyaient faire ce qui était juste. Ils pensaient aider les gens à se rapprocher de Dieu. Ils pensaient défendre la bonne cause lorsqu'ils questionnaient Jésus au sujet des épis arrachés le jour du sabbat. Ils pensaient défendre ce qui est juste lorsqu'ils confrontaient Jésus parce qu'ils ne s'étaient pas lavés avant les repas, ou parce qu'ils mangeaient et buvaient avec les collecteurs d'impôts et des pécheurs, ou encore lorsqu'ils tentaient Jésus à propos de la loi. Dans toutes ces choses, ils ne cherchaient pas à avoir tort. Au contraire, ils pensaient avoir raison. Ils pensaient être du côté de Dieu. Et pourtant, ils sont passés à côté. Jésus était juste devant eux, mais ils ne pouvaient pas le voir tel qu'il était, Dieu fait chair. C'était des guides aveugles, disait Jésus. Alors, comment éviter de commettre la même erreur en tant que parent? Comment ne pas penser que nous faisons ce qu'il y a de mieux, alors qu'en réalité, nous faisons tout le contraire? Comment nous assurer que nous défendons ce qui est juste et non ce qui ne l'est pas? Permettez-moi de revenir aux paroles de Jésus à propos des pharisiens, dans Matthieu 15:8. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Je pense que c'est là la réponse. Leur cœur était éloigné du Seigneur. Ils étaient impliqués dans le leadership spirituel. Ils connaissaient la Bible. Ils enseignaient les commandements de Dieu, mais leur cœur n'était pas engagé. Ils n'avaient pas compris qu'ils étaient des pécheurs, ayant désespérément besoin de la grâce de Dieu. Ils étaient auto-justes. Ils se confiaient en eux-mêmes, au lieu de crier à Dieu, pour obtenir sa miséricorde dans leur vie. Je vous dirai que la raison principale pour laquelle les pharisiens ne donnaient pas de grâce au peuple, c'est parce qu'ils ne comprenaient pas la grâce dans leur propre vie. Ils ont rejeté Jésus parce qu'ils ne pensaient pas avoir besoin d'être sauvés. La vérité, c'est que nous avons tous besoin de la grâce de Dieu. Nous étions tous des pécheurs vivant loin de Dieu et nous étions condamnés à cause de ce péché. Mais Dieu a envoyé Jésus dans le monde pour nous sauver de notre péché. Il est mort pour notre péché sur la croix et il est ressuscité 3 jours plus tard. En croyant en Jésus comme Seigneur et Sauveur, la Bible dit que nous pouvons être sauvés, car c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par la foi en Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas la mériter. Vous ne pouvez pas la fabriquer. Vous ne pouvez que croire en Jésus-Christ et recevoir ce don de la grâce. Et certaines personnes pourraient dire, « Oh, cela semble trop facile, mais laissez-moi vous demander, était-ce facile pour les pharisiens ?» Non.
Ils ne pouvaient pas accepter le fait qu'ils avaient eux aussi besoin de Jésus.
Il y avait un missionnaire bâgé à qui de jeunes parents ont un jour demandé des conseils sur l'éducation de leurs enfants dans un pays étranger. Les jeunes parents pensaient que le missionnaire parlerait de la valeur de l'éducation ou de l'importance d'apprendre la langue locale ou de l'importance de la communauté ou de l'importance de passer du temps ensemble en famille. Mais la vieille missionnaire a dit, « Savez-vous quelle est la chose la plus importante que vous puissiez faire pour vos enfants ?» Les jeunes parents ont demandé, « Qu'est-ce que c'est ?» La femme âgée a répondu, « La chose la plus importante que vous puissiez faire pour vos enfants, c'est de continuer à grandir dans votre relation avec le Seigneur. Que vous continuiez à vivre par la foi. Que vous continuiez à vous repentir de vos péchés. Que vous continuiez à rechercher le Seigneur de tout votre cœur. » Les jeunes parents étaient surpris. Ils s'attendaient à recevoir des conseils sur des choses à faire pour leurs enfants. Mais au lieu de cela, le conseil portait sur la vie spirituelle des jeunes parents et sur l'impact que cela aurait sur leurs enfants. Cela m'amène à mon dernier point. 3. Continuez à grandir dans votre relation avec Dieu. Un autre auteur dit, « Il est essentiel de reconnaître que les choses que Jésus demande à ses disciples de faire sont les mêmes principes qui font de vous un bon parent. Si vous suivez Jésus, si vous lui obéissez, si vous lui faites confiance, alors c'est la meilleure chose que vous puissiez faire pour vos enfants sur le plan spirituel. »
J'ai dit tout à l'heure qu'il existe énormément d'informations sur l'éducation des enfants. Ce que vos enfants devraient manger, combien de temps de jeu ils devraient avoir chaque jour, le danger du temps passé devant les écrans, avec combien d'activités ils devraient être impliqués. Il y a tellement d'informations disponibles. Plus d'informations que vous ne pourriez jamais en assimiler. Et certaines de ces informations sont bonnes. Certaines sont utiles. Mais je veux que vous sachiez et que vous vous rappeliez qu'en Jésus-Christ, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour cette vie. Ce qui signifie que vous avez tout ce dont vous avez besoin pour être un bon parent et élever vos enfants. Le Seigneur est votre berger, alors que vous manque-t-il ? Rien. Devrions-nous chercher davantage de sagesse ? Absolument. Devrions-nous chercher à grandir en tant que parents ? Bien sûr. Nous devrions toujours continuer à grandir. Mais nous devons nous rappeler que Jésus, l'espérance de la gloire, est en nous. Vous pouvez tout faire par Christ, qui vous fortifie. Cela inclut l'éducation des enfants.
Il y avait de bons parents pieux, il y a 500 ans et il y a 1000 ans, bien avant qu'il n'existe tous ces livres ou influenceurs. Pourquoi ? Parce que les croyants avaient le Saint-Esprit pour les conduire, les guider et les aider. Le Saint-Esprit vous convaincra lorsque vous êtes trop sévère avec vos enfants. Le Saint-Esprit vous donnera de la sagesse lorsqu'il sera temps de prendre des décisions importantes concernant vos enfants. Le Saint-Esprit intercédera
et priera pour vous pendant vos journées les plus difficiles en tant que parent. Il est le paraclet, votre aide. Les pharisiens, plus que tout, avaient le cœur fermé. Ils n'étaient pas ouverts à ce que Dieu faisait à leur époque. Spirituellement, ils étaient fermés, et ils sont donc passés à côté. Mais si vous gardez votre cœur ouvert, si vous êtes sensible au Saint-Esprit et suivez sa direction, si vous continuez à chercher le Seigneur dans votre vie, tout ira bien pour vous. La chose la plus importante que vous puissiez faire pour vos enfants, c'est de continuer à grandir dans votre relation avec le Seigneur. Un excellent conseil. Puissions-nous être fidèles à accomplir l'appel que Dieu a placé sur nos vies.